Bonjour, ou disons Manawan. En malgache.
Alors voilà, vous faites bien de parler malgache, parce qu'aujourd'hui on va pas parler de la Chine ni de Macao, mais bien dans notre pays beaucoup plus petit, qui est en l'occurrence Madagascar, puisque Jean Rouault, vous êtes président de l'association Touraine Madagascar, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ce pays, cette île d'ailleurs, hein, c'est une île. Une grande île,
puisque plus grande que la France en superficie, grande comme la France et la Belgique, donc ce n'est pas une petite île.
C'est une grande île. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même et nous dire un peu ce qui vous a amené à être président d'une association, de cette association Touraine Madagascar ?
Donc un vécu personnel d'abord, puisque j'ai vécu 12 ans à Madagascar de 1972 à 1984 comme enseignant en établissement malgache. À mon retour, j'ai été nommé au lycée Grandmont de Tours, et dans ce lycée, une collègue qui avait elle aussi des liens avec Madagascar a proposé de faire un partenariat entre un établissement scolaire de la capitale, le lycée Jules Ferry d'Antananarive, et le lycée Grandmont. Donc c'était en 1996, et notre association a été créée donc pour faire des actions en dehors du lycée la même année. Donc nous avons fêté nos 20 ans en 2016.
Alors justement, cette association créée en 1996, vous l'avez dit, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et la présenter, peut-être aussi présenter son histoire après 1996 ?
Donc l'association est issue donc d'un établissement scolaire, on est plutôt donc sur des actions en milieu éducatif, avec pour objectif donc, je dirais d'abord en Touraine, de faire connaître Madagascar, ce pays qui a eu une histoire commune avec la France, puisque la France a colonisé Madagascar, et cette histoire commune a duré 65 ans, de 1895-96 jusqu'à 1960, l'année de l'indépendance. Donc on a une histoire commune, mais peu connue finalement des Français. Donc notre objectif, c'est de faire connaître Madagascar en France, mais pas simplement par son passé, mais aussi par sa culture, par la connaissance de ses auteurs, de ses artistes actuels, donc au cours de rencontres, débats, de projections de films ou d'expositions photos. Donc ça, c'est notre action sur le territoire tourangeau. À Madagascar, donc, nos actions sont centrées surtout autour du livre et de la lecture, parce que la situation économique à Madagascar est très difficile pour 80% de la population au moins. D'accord. Et le livre est quelque chose qui est, je dirais, inaccessible financièrement pour une grande partie des familles malgaches. Donc on fait des actions pour favoriser la lecture et le livre à Madagascar.
Ça reste un pays assez pauvre, Madagascar ?
Si on regarde les statistiques dans les classements des pays, où on a 187 pays classés, Madagascar se trouve actuellement cinquième par rapport au bas de la liste, en situation, je dirais, plus difficile qu'il y a quelques années, puisque il y a quelques années, Madagascar était plutôt dixième à partir de la fin. Disons qu'il y a eu des événements politiques en 2009 qui ont entraîné cinq ans de gouvernement transitoire, avec donc un gouvernement, disons, non élu, qui a fait que les instances internationales ont arrêté leurs aides à Madagascar, et la situation économique donc s'est aggravée, d'où cette régression de la situation économique du pays.
Alors justement, on va en parler de tout ça, de la vie un peu à Madagascar, parce que vous y avez vécu.
Hein. Oui.
Et avant, on va parler quand même de l'association et notamment de vos partenariats. Alors, il me semble avoir lu sur votre site internet que vous avez un partenariat avec l'IMRA, l'Institut Malgache de Recherche Appliquée, et aussi l'Université de Tours.
Alors ça, c'est un partenariat très récent, puisque le directeur de l'IMRA est venu l'an dernier, et nous avions des contacts anciens, mais qui étaient restés un petit peu en sommeil. Et donc, une collègue qui a travaillé à l'Université de Tours, dans la partie donc faculté de pharmacie, est rentré en contact avec le directeur de l'IMRA, qui est venu nous rencontrer lors d'un café malgache, où il a présenté donc dans une rencontre publique ce qu'était l'IMRA et ses actions. Mmh. Et elle a mis donc ce directeur de l'IMRA en relation avec des personnes, des chercheurs de la faculté de Tours, pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait entre les deux établissements. Donc je dirais que on est dans le démarrage actuellement de ce D'accord. nouveau partenariat.
Alors, l'association Touraine Madagascar, elle fait évidemment aussi des projets. Vous avez notamment fait, en 2016, ou en tout cas financé un voyage pédagogique pardon, pour les élèves du lycée Jules Ferry, c'est ça ?
Oui, alors ça, disons que ça, c'est un énième voyage, puisque depuis la création donc, du partenariat entre les deux lycées, il y a eu régulièrement des échanges de groupes d'élèves, donc la fréquence moyenne étant tous les deux ans, c'est-à-dire une année, c'est d'une dizaine d'élèves accompagnés de deux ou trois encadrants du lycée malgache qui viennent en Touraine accueillis dans les familles d'élèves du lycée Grammont. Une année relâche, l'année suivante, on inverse le mouvement, c'est un groupe d'élèves du lycée Grammont qui va à Madagascar, qui est accueilli à famille. Donc le dernier déplacement, effectivement, c'était en 2016, un groupe de malgaches qui est venu au lycée Grammont.
C'est une sorte de correspondance ou de jumelage
non,
un
c'est
peu
plus que ça, c'est un jumelage à caractère officiel, c'est-à-dire un jumelage réglementé par l'éducation nationale, donc avec un soutien à la fois de la région centre. Donc c'est quelque chose de très structuré qui est maintenant donc en place depuis de nombreuses années. Donc ça, c'est je dirais que ce jumelage-là, je dirais, fonctionne indépendamment quasiment maintenant de l'association de Madagascar, dans la mesure où c'est une structure bien cadrée et bien organisée. Mais on reste un partenaire quand même du lycée Grammont.
J'imagine que vous avez du coup des contacts là-bas sur place à Madagascar pour faire ce genre d'initiative et de jumelage, non ?
Oui, alors on a des correspondants malgaches, et puis au-delà donc de ce partenariat entre ces deux lycées, on a aussi un partenariat avec l'école de l'Alouette de Joué-les-Tours et une école malgache donc primaire de milieu plus rural, un village qui se trouve à 15 km de la capitale. Et là aussi, alors c'est plus récent puisque ça date de 2012, où là c'est limité à des échanges de correspondance entre deux classes de CM2. Et notre rôle d'association, c'est donc de mettre les gens en relation. On apporte un soutien financier à l'école malgache et à l'école française, donc dans la classe de CM2 de l'Alouette. On intervient donc depuis 2012 chaque année en venant 6 ou 7 fois sur des séquences d'une heure pour présenter avec des diaporamas différents aspects de Madagascar, donc la géographie, la faune, la flore, l'agriculture, faire connaître Madagascar aux petits-enfants français.
Alors justement, je compte sur vous pour nous faire connaître avec Julie qui vient de rentrer dans le studio. Salut Julie.
Bonjour.
J'espère que vous allez nous faire connaître un peu ce pays qui est Madagascar, parce que moi personnellement, je vous l'ai dit hors antenne, mais c'est un pays que je connais absolument pas. Avant de parler de tout ça, est-ce qu'il y a une grosse communauté malgache à Tours ou en Touraine ?
Alors il y a effectivement en France, globalement, il y a une diaspora malgache relativement importante, et en Touraine aussi. Et il y a même, disons, une association à Tours qui est typiquement des malgaches, disons, habitants dans la Touraine.
D'accord.
Donc c'est une immigration, mais de gens qui sont devenus français pour un grand nombre, qui est assez importante.
Oui, parce qu'on le rappelle, Madagascar était une colonie française jusqu'à 1960, en fait.
C'est ça, oui.
Alors, ce pays, Madagascar, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la culture, déjà ? J'imagine que c'est complètement différent qu'en France, parce qu'évidemment, déjà géographiquement, on est complètement éloigné. Donc peut-être que ça joue à ce niveau-là, non ?
Ça joue parce que d'abord c'est un pays effectivement qui est relativement grand, qui a été peuplé, c'est une île, mais qui a été peuplé, je dirais, tardivement, puisqu'on parle, alors là, avec beaucoup d'incertitudes quand même sur les recherches archéologiques, sur une occupation humaine, disons, de Madagascar il y a à peu près 2000 ans, mais c'est avec des grands points d'interrogation et une population donc, qui est d'origine en partie d'Indonésie-Malaisie. Donc c'est assez éloigné de Madagascar, avec des apports donc, d'origine arabe, mais plus mineurs, et d'origine africaine, donc côte est de l'Afrique, le Mozambique, puisque Madagascar est à 400 km à peu près des côtes du Mozambique. Donc c'est une population relativement mêlée, mais historiquement, il s'était créé à Madagascar des différents royaumes, disons, qui avaient certaines particularités culturelles, mais malgré cette diversité, à Madagascar, il y a, je dirais, une langue malgache, donc une certaine unité déjà linguistique.
Qui ressemble à quelle langue ? Est-ce que ça ressemble à une langue ?
C'est une langue d'origine Malaisie, Indonésie, donc, mais des anciennes langues de ce pays-là. Mais c'est ce qui a prouvé, c'était la première preuve, disons, de l'origine du peuplement de Madagascar, justement, c'est la trace de la langue. Et donc, la langue qui est parlée avec des variantes dialectales dans suivant les régions, mais il y a bien une langue malgache avec sa grammaire particulière.
Vous parlez malgache, vous ?
Non, je ne parle pas malgache.
Non.
J'ai un petit peu honte, après un séjour aussi long, de ne pas parler malgache. Enfin, je connais des expressions, mais pour le parler, non.
Alors, pour le coup, il parle aussi, pour la plupart, français, j'imagine, étant donné que c'était une colonie française.
Bah, disons que la colonisation française s'est accompagnée, dès le début, de l'imposition de la langue malgache, donc 1896, dans toutes les formations scolaires. Donc pendant toute la colonisation, les établissements scolaires, l'enseignement était fait entièrement en français. D'accord. Et ça a perduré pas mal, pendant 10 ans encore après l'indépendance, jusqu'aux événements de 1972, où il y a eu, disons, une réaction, ça a été le mai 68, disons, des Malgaches, où il y a eu une réaction populaire avec un mouvement étudiant au départ, et où on est revenu vers une malgachisation avec l'enseignement qui est revenu en malgache, mais qui reste un petit peu mixte malgache-français. Et actuellement, le français est enseigné comme deuxième langue. D'accord. Dès le primaire et en collège et lycée.
Côté chiffres, Madagascar, c'est 587 000 km², donc vous l'avez dit, plus grand que la France, hein. 4828 km de côte tropicale, c'est aussi à souligner, évidemment. La capitale, Antananarivo, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Le O ne se prononce pas. Bon,
non.
C'est écrit avec un O à la fin, mais il ne se prononce pas. Et un plateau central avec 1000 mètres d'altitude moyenne. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette topographie à Madagascar ?
Alors,
j'imagine que c'est un décor qui change aussi.
Disons qu'on a Madagascar... trois zones, on peut dire quatre, bien distinctes, et surtout avec des climats très différents. Donc effectivement, les hauts plateaux qui vont, je dirais, du nord au sud, alors l'appellation haut plateau est employée, bien que ça soit en réalité, c'est pas plat, c'est beaucoup de collines. L'appellation nouvelle employée dans les revues ou autres, c'est plutôt haute terre, et avec donc un climat tempéré, l'altitude donc moyenne de 1000 mètres donne un climat tempéré qui fait que... l'hiver, si on peut dire, bien que cette appellation n'existe pas, on parle de saison des pluies, de saison sèche. Donc la saison sèche, c'est l'équivalent pour nous de l'hiver-automne. Il fait rarement au-dessous de 5 degrés, donc climat tempéré. Et l'été est chaud, mais il fait 35 degrés quand il fait très chaud. Donc c'est un climat relativement tempéré qui permet d'avoir, au niveau culture, toutes les plantes, disons...
européenne,
aussi bien en fruits, pommes, pêches, etc., qu'en légumes, quasiment pour les légumes toute l'année. Alors que la côte est, elle, donc saison sèche, ça veut dire quasiment 6 mois sans pluie. Saison des pluies, donc saison chaude, il pleut tous les après-midi, de fortes pluies. Donc le paysage des hauts plateaux est aussi façonné par les rizières, puisque la riziculture est très importante à Madagascar, puisque les malgaches mangent beaucoup de riz. La côte est, au contraire, donc, est un climat tropical chaud et humide, c'est-à-dire qu'il pleut toute l'année. Donc là, des cultures spécifiques, c'est sur cette côte qu'on trouve la vanille, le café, le cacao, etc. La côte ouest, elle, est plus en pleine, avec aussi deux saisons marquées, saison sèche et saison des pluies. Et l'extrême sud, par contre, est semi-aride, puisqu'il y a très peu de pluie, de l'ordre de 300 mm par an. Donc c'est... des régions très, très étendues, mais avec des climats très contrastés, donc des cultures très différentes.
Et on le rappelle, Madagascar, qui est dans l'océan Indien, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Côté économie, est-ce qu'on peut parler maintenant de ce secteur-là ? De quoi vivent les Malgaches, principalement ? Quelle est la richesse principale de ce pays ?
Alors d'abord, pour leur autosuffisance, je dirais, des cultures vivrières, et... à nouveau, je parle du riz, parce que c'est l'aliment principal à travers tout le pays. Il y a des cultures... Et puis, il ne faut pas que j'oublie aussi le zébu, parce qu'il y a un élevage de zébu très important, mais le zébu servant à la fois aussi pour tirer les charrettes, parce que le réseau routier à Madagascar est constitué de quelques grands axes routiers goudronnés, mais beaucoup de pistes en latérite, en terre, et donc le zébu est encore utilisé pour tirer des charrettes, pour transporter des marchandises, pour travailler la terre aussi, la bourrer, et puis pour la viande. Donc il y a une activité aussi autour de l'élevage, mais pas l'élevage à l'européenne, disons. C'est des grands troupeaux qui sont libres dans les plaines herbeuses et qui sont surveillés par des gardiens, et les troupeaux se déplacent. Donc il y a une tradition très importante et une attache très importante par rapport à cet animal, le zébu, et puis par rapport au riz. Je dirais que c'est les deux dominantes. Et au niveau économique, donc Madagascar aussi... alors, quelques richesses d'exportation. On a actuellement sur nos marchés les litchis, de Madagascar.
La vanille aussi.
Il y a la vanille, ouais, qui est la première, en valeur, la première exportation agricole de Madagascar, qui, avec l'Indonésie, ce sont les deux pays, les grands pays producteurs de vanille. Il y a aussi en moindre volume le cacao, du café. Donc il y a quand même des produits agricoles d'exportation qui pourraient être encore développés pour augmenter l'économie d'exportation de Madagascar.
Et en termes d'importation, parce qu'évidemment le problème de chaque île finalement, c'est ce côté d'importation et de faire venir des produits qu'on ne produit pas nous-mêmes. Est-ce que c'est une difficulté majeure à Madagascar de faire venir des produits notamment occidentaux? Est-ce que du coup dans les magasins ça se ressent aussi en termes de pénurie, en termes de manque?
Il y a un premier problème pour les importations sur Madagascar, c'est les problèmes énergétiques. C'est-à-dire que gaz et carburant sont importés. Alors, il y a quelques débuts d'exploitation pétrolière, mais pour l'instant, c'est totalement anecdotique, si on peut dire. Donc, les Malgaches doivent importer l'énergie, gaz et carburant. Mm-hmm. Ce qui entraîne que, comme c'est des produits d'importation, c'est coûteux. Et la grande majorité des familles malgaches cuisinent avec le charbon de bois et non pas le gaz ou l'électricité. Donc le charbon de bois, c'est l'aspect, c'est déforestation et érosion des sols. Donc Madagascar a ce gros problème-là au niveau énergétique. Après, il y a très peu d'industries manufacturières à Madagascar. L'activité principale à 80%, c'est le milieu agricole.
D'accord.
Donc peu d'industries manufacturières, d'où beaucoup d'importations de produits fabriqués et actuellement beaucoup venant, comme en Europe d'ailleurs, de Chine.
Et où en est le tourisme? J'imagine que quand même c'est une île qui attire, peut-être par la beauté de ses paysages aussi. Est-ce qu'il y a une grosse partie touristique dans cette économie de Madagascar?
Alors, il y a une partie touristique, mais qui mériterait d'être développée, mais ce n'est pas du tout un tourisme, je dirais, tel qu'on le pratique avec une hôtellerie de
haut
niveau.
Oui, pas des stations balnéaires, voilà, tous les coins de rue.
Non, il y a Nosibé qui est connu mondialement, mais c'est vraiment le tourisme, je dirais, là, pour les riches. Mais si on veut faire du tourisme à l'intérieur de Madagascar et rencontrer les Malgaches, il faut s'apprêter à faire un tourisme différent. D'abord, il ne faut pas y aller à la saison des pluies parce que les pistes sont des bourbiers parfois. Ouais. Donc les hôtelleries dans les provinces sont de on peut pratiquer ce tourisme, mais il ne faut pas y partir comme si on ferait du tourisme en Europe. Donc il faut avoir les aléas, je dirais, du temps, des trajets, les aléas sur éventuellement les hébergements, mais on peut faire un tourisme sans problème à Madagascar et voir des choses que on verra nulle part ailleurs.
Est-ce que, alors on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, est-ce qu'on peut parler de l'histoire de Madagascar, donc qui a été indépendante en 1960, qui a pris son indépendance de la France, mais après, quelles sont les grandes dates qui ont marqué un peu l'histoire de l'île?
Après l'indépendance.
Après l'indépendance, oui.
Je dirais qu'il y a eu 10 ans de demi-indépendance, dans la mesure où le premier président malgache...
Alors c'est une république, hein, on a oublié de le préciser, c'est une république.
Donc c'était Tsiran, le président Tsiran, qui avait été mis en place, on peut le dire, par la France.
Okay.
Et donc dans les 10 ans qui ont suivi, ou les 12 ans, on peut dire, donc jusqu'à 1972, il y avait encore dans tous les ministères beaucoup de conseillers français, y compris donc dans les établissements scolaires, il y avait beaucoup de coopérants français enseignants, j'en ai fait partie. Hein. Et 72 a marqué donc une rupture, puisqu'il y a eu un mouvement qui a démarré avec les étudiants, et qui s'est élargi après, et qui a été un mouvement de réaction contre le maintien de cette présence française. Et ça a été donc, je dirais, la rupture, la vraie deuxième indépendance de Madagascar, avec donc une réaction contre la France, en tant que France maintenant, une même
en tant que pays d'influence.
Voilà, un pays d'influence, pas du tout contre les Français qui étaient présents. J'ai vécu à 12 ans à Madagascar, j'ai jamais eu de la part d'un seul malgache une réaction d'animosité, de rejet ou autre. Donc c'était pas tourné contre le français en tant que tel, mais contre la mainmise de la France. Et donc là, il y a eu, je dirais, Madagascar s'est plus rapproché des pays de l'Est, de la Chine, de la Corée ou de la Russie, pendant donc les années qui ont suivi, avec une certaine instabilité, je dirais, politique pendant quelques années, avant que le président Ratsirak soit la tête du gouvernement. Donc on est parti plus vers un pays socialiste, disons.
D'accord.
Enfin, dans les titres.
Aujourd'hui, ça l'est toujours, un pays socialiste?
Non, c'est plus une république démocratique que... Enfin, ces liens qui s'étaient créés se sont plutôt distendus, donc c'est plus ouvert vers tous les pays. Ouais.
Et qui va répondre aux questions de Julie, puisque c'est Julie aujourd'hui qui a préparé le petit quiz, pas vrai?
Oui.
Alors Julie, je te mets le jingle du quiz et je te laisse poser les questions à Jean. C'est parti.
Première question, alors ça va être plus être un rappel pour les auditeurs. Donc les Français ont colonisé Madagascar, mais quelle est la date exacte de leur indépendance?
Donc on a déjà dit que c'était l'année 1960, et donc la date qui est aussi donc la date de la fête nationale malgache, c'est le 26 juin. Donc chaque 26 juin, les Malgaches fêtent leur indépendance, c'est leur 14 juillet à eux.
Voilà, donc 26 juin 1960, l'indépendance des Malgaches. Deuxième question, c'est parti. Comment se nomme la vieille tradition des tribus malgaches qui consiste à envelopper des ossements dans de la soie? Est-ce que vous savez?
Alors c'est le famadine.
C'est ça.
Alors c'est pas simplement envelopper les corps dans de la soie, c'est aussi sortir les corps des tombeaux, et faire donc une fête, on appelle ça aussi le retournement des morts, c'est faire une fête autour de ces morts qu'on va sortir du tombeau. Alors je dis ces morts parce qu'à chaque fois, d'un même tombeau familial, on sort plusieurs corps. Et alors quel corps on sort? Ben c'est de quelqu'un de la famille qui a rêvé à la grand-mère et qui, la grand-mère lui a dit qu'elle souhaiterait revenir dans le monde des vivants. Donc on sort ce corps, et lors de cette sortie, donc c'est une fête avec la musique, les enfants et tout. Et effectivement, on enroule le corps à nouveau dans un nouveau linceul qui est un lambe, on appelle ça un lambe, et en fin de journée on remettra le corps, enfin les corps, à nouveau dans le tombeau.
Et c'est un jour particulier ça, ou
c'est une coutume funéraire en fait?
Oui, mais est-ce qu'il y a une date particulière?
Non, c'est pas un jour, ça se fait pour des raisons je dirais d'hygiène à la saison sèche.
Ok.
Il faut avec un accord de la municipalité. Mais ça se fait sur un mois ou deux, c'est pas un jour précis de l'année.
Ok.
Très bien, encore une bonne réponse. Alors, troisième question, alors là, il va falloir être un peu précis. Donc, la devise de Madagascar, c'est l'ariari malgache, je le prononce bien?
Oui, oui. L'ariar, on prononce pas le Y.
D'accord, donc, l'ariar. Alors, combien vaut 1 euro en ariar?
Alors, actuellement, il doit être autour de 1 euro, 3600 ou peut-être même 3800.
3800, c'est ça. Ah, alors précisément, 3826,8 ariar, c'est l'équivalent de chez nous une pièce de 1 euro.
Avec une inflation donc qui est relativement importante.
Oui, voilà, c'est ça en fait.
Il y a ça aussi qui joue.
Ça bouge tout le temps, j'imagine.
Voilà, il était à 3300 il y a 2 ans par là, donc il y a une forte inflation.
Et concrètement, avec 1 euro, donc avec 3800 ariar, c'est ça, qu'est-ce qu'on peut s'acheter là-bas? Est-ce que c'est suffisant, par exemple, pour prendre un repas ou pas?
Un ariar... Non, pas un ariar, que je raconte. Oui, 3000, 1 euro, oui, peut faire un repas, oui.
D'accord,
ah,
ok.
Oui.
Mais dans des petits hôtels, quoi. Donc pas aller dans des hôtels de tourisme.
Oui.
Mais c'est vrai que le coût de la vie...
Ah bah c'est bien
et
moins cher.
Beaucoup plus faible pour manger, disons, qu'en France, mais il faut voir aussi que quand même le salaire moyen est autour de 40 euros, ce qui veut dire qu'éventuellement les ouvriers non qualifiés, ça peut se rapprocher de 30 euros par mois. Donc l'échelle n'est pas du tout la même.
D'accord. Bon, alors on va compter le point parce que
ça t'a refroidi, Julien.
Ah non, bah non. Oui, bah c'est vrai que c'est 1 euro, 3800, c'est quand même pas pareil.
Ouais, effectivement.
Quatrième question, que signifie la partie blanche du drapeau de Madagascar? Est-ce que vous savez?
Ah, là vous me posez une colle. Je l'ai lu, mais j'avoue que c'est pas par rapport à la pureté ou la royauté.
Eh bien, presque. Alors vous en avez beaucoup parlé, il y a le riz, qui est important pour les Malgaches, et donc la pureté, en effet, ça signifie la pureté, et également la soie. Donc
donc avec une réserve, puisque la soie traditionnelle malgache est une soie sauvage qui existait avant la colonisation, et cette soie justement n'est pas blanche, parce que c'est un cocon qui est légèrement marron, et on fait avec des écharpes ou des tissus en soie sauvage qui n'est justement pas blanche. C'est la colonisation qui a introduit la soie blanche avec le bombix. D'accord. Mais il y a donc deux sortes de soie à Madagascar, la soie dite sauvage, qui est légèrement brune, et puis la soie d'élevage du bombix, qui elle est blanche, effectivement.
D'accord. Et le rouge donc sur le drapeau, ça signifie également l'argile et le sang, et la couleur verte, l'arbre du voyageur. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça signifie, l'arbre du voyageur ?
Alors, c'est un arbre endémique de Madagascar, qui est un petit peu de la famille du palmier, mais qui a les feuilles disposées dans un seul plan, en éventail, comme si on avait un éventail. Et donc, c'est un arbre typique qui apparaît effectivement à la fois sur l'emblème, je dirais, de Madagascar, sur l'emblème de la compagnie d'aviation Air Madagascar. On le retrouve aussi sur les billets, effectivement. On appelle, alors, c'est, le nom, c'est le ravenal, mais effectivement, appelé couramment l'arbre du voyageur.
D'accord, et eh ben 4 points. Et la dernière question, ça va être un vrai ou faux. Et donc je vais vous dire de quoi il s'agit. La population de Madagascar descendrait de 30 femmes indonésiennes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
Je connaissais pas cette légende, mais je sais par contre que. Oui, c'est faux. Enfin. La légende aussi, les légendes peuvent dire un tas de choses, mais j'ai un doute. Par contre, je sais effectivement qu'une partie de la population malgache vient d'Indonésie.
Alors, ça serait des scientifiques qui auraient découvert grâce à l'ADN que les Malgaches sont issus d'un groupe de femmes qui est arrivé il y a 1200 ans d'Indonésie. Donc, ça serait la science qui expliquerait...
Ça serait plutôt vrai, mais encore une fois, c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres mixages de peuples qui ont abouti...
Ah oui, alors il y a beaucoup de conditionnels dans la phrase que j'ai lue. Hein, c'est les scientifiques pensent que, donc rien de véridique.
En tout cas, vous aviez donné à peu près... La bonne réponse en disant que ces personnes-là venaient d'Indonésie, ce qui est assez d'ailleurs étonnant, oui. Puisque Indonésie, Madagascar, c'est quand même, il y a peut-être quoi, 8000 km d'écart, 10 000.
Oui, disons que les premières migrations, on a supposé que les premières migrations s'étaient faites pas forcément en bateau, mais en longeant les côtes donc, de l'Inde, de l'Afrique pour arriver sur Madagascar, mais qu'ensuite, vers le 10e siècle, il y a eu des migrations en voie directe.
D'accord.
Sachant que bon, ces populations étaient de grands navigateurs, donc ce fait-là, plus effectivement le fait qu'à Madagascar, la pirogue à balancier est utilisée partout, plus des outils pour le travail du fer, on a des origines, disons, certaines d'une population venant d'Indonésie, Malaisie.
Ok. Merci Julie pour le petit quiz et bravo à vous. En tout cas,
oui,
Jean, vous êtes
5 sur 5.
Vous êtes un des rares qui a réussi le 5 sur 5 au quiz ici dans Radio Campus. Tour, évidemment, je le précise parce qu'il y en a plusieurs. J'aimerais maintenant qu'on revienne sur l'événement qui vous amène aussi en partie ici. C'est jeudi, donc c'est en fait dans 2 jours, puisque au Cinéma Studio, il y aura une projection d'un film documentaire qui s'appelle « L'insurrection de l'île Rouge ». Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement ? Donc, c'est une insurrection qui a eu lieu à Madagascar en 1947 et qui a fait 89 000 victimes. Hein, donc, c'était à l'époque de la colonisation française. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement-là, jeudi ? Pourquoi avoir décidé de faire une projection comme ça ?
Ben parce qu'on est déjà sur le 70e anniversaire donc, de ces événements. Alors, je dirais événement, à l'époque, on parlait d'incident, c'est-à-dire en métropole, on parlait des incidents
sur les mots, c'était pareil en Algérie d'ailleurs.
Oui, alors que ça a été vraiment une insurrection qui était pour l'indépendance de Madagascar, donc qui s'est soulevée contre la colonisation française, qui avait une présence lourde. Et n'oublions pas qu'un point particulier, on a parlé de, quand on parle de l'esclavagisme, on parle du code de l'indigénat. Et ce code de l'indigénat n'a été supprimé à Madagascar qu'en 1946. Alors que, aussi bien à la Première Guerre mondiale qu'à la Deuxième, dans l'armée française, il y avait des soldats d'origine malgache. Donc il a fallu attendre 1946 pour supprimer ce code qui distinguait donc deux types de populations, ce qu'on appelait indigènes, et puis les Français, pour lesquels donc, les droits étaient différents. Donc, comme en Indochine, comme en Algérie avec les événements de Sétif après la guerre, Madagascar a aussi connu donc son insurrection pour combattre la colonisation et et obtenir l'indépendance.
Et c'est ce que raconte en tout cas ce documentaire. Il y aura un débat après le film.
Oui, donc il y aura un débat avec la présence donc de deux personnes, Jean-Luc Harimanan, qui est donc un écrivain malgache qui a beaucoup travaillé sur cette période et qui a fait déjà deux livres, Madagascar 1947, Nour 1947, et qui a fait aussi un livre particulier qui s'appelle Portrait d'insurgé. C'est-à-dire qu'il est allé rencontrer des témoins de l'époque, donc il n'en reste plus beaucoup, ils sont très âgés, avec un photographe qui s'appelle Pyromène, et ils ont fait un livre particulier donc sur ce portrait de ces témoins, avec des enregistrements donc des paroles de ces témoins, parce que ils considéraient qu'il fallait se dépêcher pour avoir encore une trace vivante, disons, de ces événements. Beaucoup des historiens ont travaillé aussi sur ces événements, mais je dirais que c'est quand même quelque chose qui a été un petit peu passé sous silence après l'indépendance, mais y compris du côté malgache.
Est-ce qu'on peut évoquer maintenant leur tour, hein, c'est bientôt la fin de l'émission, mais est-ce qu'on peut évoquer brièvement les autres événements que vous allez faire en 2018, notamment, si vous avez quelque chose à nous dire par rapport à ça?
Disons qu'on aura une première rencontre en janvier, donc on organise irrégulièrement, mais de temps en temps, des cafés malgaches, où on invite donc quelqu'un malgache ou pas, qui a des connaissances particulières sur Madagascar, donc ça peut être sur la minéralogie, sur la faune, la flore, faire venir un écrivain, et donc le 19 janvier à 20h, on fera une rencontre avec Loïc Hervouet, qui a fait un livre particulier très intéressant, qui s'appelle « Comprendre les malgaches ». Parce qu'effectivement, la culture malgache est très différente de la nôtre, et pour un Français qui va à Madagascar, il peut faire des impairs ou ne pas comprendre certaines choses. Donc, disons que je conseillerais ce livre à toute personne qui veut aller faire un voyage à Madagascar, ça l'aidera beaucoup, beaucoup, et ça lui évitera de faire des impairs. Donc, c'est « Comprendre les malgaches » de Loïc Hervouet, et on se retrouverait donc le 19 janvier à 20h à la brasserie du Saint-Germain. Donc, ça se déroule toujours avec une présentation du livre par l'auteur, quand c'est un écrivain, et ensuite un débat ouvert, questions-réponses, avec cette personne-là.
Et en attendant, rendez-vous évidemment, chers auditeurs, jeudi, donc dans deux jours, au Cinéma Studio, pour une projection du film « L'insurrection de l'île rouge », qui correspond à ces troubles, et en tout cas à la volonté d'indépendance de Madagascar en 1947. C'est dans deux jours.
J'ai oublié de citer un deuxième intervenant, donc j'ai parlé de Jean-Luc Harimanan, donc écrivain malgache, et le deuxième. On fait venir aussi un historien, donc Gilles Richard, qui est un historien qui a enseigné au lycée Grammont et qui maintenant est à la faculté de Rennes, donc il y aura deux intervenants pour ce débat.